C'est en juillet 1995, après les attentats du RER Saint-Michel à Paris, que sont créées les cellules d'urgence médico-psychologique afin d'apporter des soins d'urgence. 20 ans plus tard, ces cellules se retrouvent au centre de nombreuses critiques qui dénoncent un gadget politique utilisé pour tout et n'importe quoi. Placées sous les feux des projecteurs, les personnes traumatisées deviennent des victimes avant d'être des blessées. Je suis victime, c'est un livre justement qui est paru sous la direction d'Hélène Romano et de Boris Cyrulnik. Ils sont mes invités dans un instant pour évoquer l'exploitation du trauma, vos messages, vos questions, vos témoignages, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. La une de la science aujourd'hui dans le cadre de la journée spéciale sur notre antenne avec une initiative citoyenne Axel pour sauver le climat et la médaille d'or du CNRS qui vient d'être annoncée.
Et oui Mathieu, on vous présente aujourd'hui le mouvement Alternatiba, un de joyeux militants qui sillonnent la France à vélo avec dans leur sacoche des solutions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Et puis nous serons en ligne avec le biologiste Éric Carcentic qui a reçu ce matin la plus haute distinction scientifique française. Vos questions sont les bienvenues comme tous les jours sur Twitter.
Stéphanie Texier réalise Notre Tête au Carré qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Margot Dullard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La fabrique des victimes et l'exploitation du trauma. Ce sera donc le dossier dans un instant. Hélène Romano et Boris Cyrulnik, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Hélène Romano, vous dénoncez la grande mascarade des dispositifs d'urgence 20 ans après leur création. Il faut sérieusement repenser leur raison d'être.
Repenser leur raison d'être, pas tant leur raison d'être, puisque l'idée de départ de Xavier Emmanuelli était tout à fait pertinente de mettre en place des soins pour les blessés psychiques, mais repenser leur mode de fonctionnement actuel et surtout les dérives qui fait qu'on a des intervenants qui ne sont pas forcément psy, des interventions pour tout et rien. Mmh. Et ce qu'on a relevé avec Boris Cyrulnik, c'est justement le fait que les blessés psychiques ne soient plus pris en compte, mais qu'on ait créé comme ça une catégorisation de victimes systématique dès qu'un événement de vie traverse les uns et les autres.
Et justement, Boris Cyrulnik, un blessé, ça n'est pas forcément une victime.
Voilà, j'emploie pour ainsi dire jamais l'expression de victime qui a une connotation juridique. J'emploie l'expression de blessé. Le coup, ils l'ont reçu. Mais ils ne sont pas obligés de faire leur vie avec ça. Alors qu'il y a des structures sociales et culturelles qui les encouragent à faire des carrières de victimes, alors qu'on sait maintenant que si on les sécurise, si on les entoure, si on les aide psychologiquement et socialement, un grand nombre d'entre eux se remettront à vivre. Ce n'est pas des victimes à vie, c'est des blessés.
Oui, et vous montrez évidemment les effets pervers de cette victimisation. On va y revenir avec vous dans un instant. C'est un sujet passionnant avec les messages des auditeurs qui nous parviennent.
La Tête au Carré sur France Inter.
Tout le monde connaît au moins de nom les cellules d'urgence psychologique qui sont désormais systématiquement mises en place dès que survient un drame, un accident, une catastrophe naturelle. 20 ans justement après leur création, ce dispositif ne semble plus vraiment adapté à la prise en charge des traumatismes. Hélène Romano, donc vous êtes docteur en psychopathologie et puis Boris Cyrulnik, vous êtes psychiatre et vous avez dirigé donc ensemble cet ouvrage à charge intitulé « Je suis victime, l'incroyable exploitation du trauma » sorti aux éditions Philippe Duval. Vous êtes donc nos invités pour cette Tête au Carré 1995, justement, les attentats du RER.
C'est surtout la queue du RER qui a pris beaucoup. Ça doit être une bombe qui a explosé, on ne sait pas d'où est l'origine. Et ceux qui ont eu beaucoup de chance, c'était la tête de rame.
Cette jeune fille qui s'en allait sans dommage devra, elle aussi, passer par le poste médical avancé. Indépendamment de ce lieu, un autre point de secours a été installé en bas, dans la station RER.
En bilan provisoire, nous avons 7 blessés extrêmement graves, qui sont des blessés, des criblés, des blastés, des amputés et 3 décédés.
À l'heure où nous parlons, il reste encore des blessés dans les cafés du départ Saint-Michel et du Saint-Séverin, 3 heures après l'explosion qui a secoué la gare RER voisine.
Voilà, et le bilan était de 8 morts, plus d'une centaine de blessés. Hélène Romano, donc le 25 juillet 1995, suite à ces attentats, Xavier Emmanuelli, qui est secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence, décide donc de créer ces cellules d'urgence médico-psychologique. Et 20 ans plus tard, vous en dénoncez les dérives autour de ces cellules, l'exploitation médiatique des victimes. Quel est vraiment le problème, alors, au fond ?
Le problème, c'est qu'actuellement, on ne prend plus véritablement en compte les blessés psychiques, mais on prend en compte tout le monde. Autrement dit, quand vous êtes confronté à un événement traumatique, c'est la mort en face. Au début, c'était fait pour ça, les cellules d'urgence médico-psychologique, les gens qui étaient confrontés à la mort, leur propre mort, ou au risque d'être tués. Donc ça crée une blessure tout à fait spécifique au niveau psychique. Ça peut créer des réactions tout à fait particulières qui nécessitent une intervention en immédiat. Et c'est là-dessus que Xavier Emmanuelli avait eu cette idée absolument remarquable de mettre en place des soins psychiques d'urgence à T0, comme on le fait au niveau somatique avec le SAMU. Mmh. Donc les cellules psy d'urgence médico-psychologique dépendent des SAMU et devaient intervenir sur la dimension psychique. Et ce qui se passe actuellement, c'est que dans une récupération à la fois politique, médiatique aussi, hein, de fascination autour de ce sujet-là, on a tout à chacun qui devient victime, tout à chacun qui demande sa cellule psy, et l'événement devient traumatique quand vous avez les caméras, quand vous avez les politiques. Autrement dit, les blessés psychiques ne sont pas forcément pris en charge en tant que tels, mais tout le monde peut être pris en charge sous le couvert d'être victime. Et victime, c'est une dimension, comme le rappelait Boris tout à l'heure, juridique, c'est-à-dire la plainte juridique de demander des réparations, du dommage, et non pas des soins psychiques.
Oui, justement, Boris Cyrulnik, comment à l'époque vous avez accueilli cette initiative donc de Xavier Emmanuelli donc en 1995, et qu'est-ce qui existait avant, alors, au fond, comment on prenait en charge les personnes
alors victimes? Cette initiative de Xavier Emmanuelli, je l'ai accueillie avec bonheur. Je me suis dit, enfin, on va s'attaquer à ce problème. Parce que avant les cellules d'urgence psychologique, les victimes étaient soit considérées comme des vaincus, soit considérées comme des lâches, soit considérées, allez, t'as qu'à prendre sur toi, remue-toi un peu, secoue-toi un peu. Donc, ils étaient aggravés par le mépris de la société qui leur disait « mais c'est pas grave, tu es vivant, tu n'as pas à te plaindre ». Donc, on les laissait seuls avec leur souffrance et on provoquait ainsi un clivage du psychisme, c'est-à-dire que les victimes ne pouvaient parler que de ce que vous étiez capable d'entendre. Et la souffrance était encryptée, elle restait secrète. Donc, les gens paraissaient souriants et en fait, ils souffraient quotidiennement. Donc quand Xavier Emmanuelli avec Croc, le général Croc, ont eu cette idée, je me suis dit, c'est une idée merveilleuse. Et c'est une idée merveilleuse.
Sauf que, à partir de quand vous avez commencé à déchanter au fond?
Sauf que c'est tous les concepts dérivent quand ils ne sont pas recadrés. C'est-à-dire que tous les concepts dérivent. Je suis en train de préparer un voyage au Japon et on m'a expliqué, les Japonais m'expliquent comment la notion de féminisme est accueillie au Japon. On dit au Japon que les féministes sont les femmes qui chantent les louanges des nouveaux aspirateurs et des nouveaux et des nouvelles machines à laver.
Dites ça, il y a du chemin à faire encore.
Voilà, dites ça à une femme occidentale, vous allez voir. Ouais. C'est-à-dire que tous les concepts dérivent. La génétique a dérivé, la psychanalyse a dérivé et la notion de victime a dérivé. Donc il faut la recadrer, garder le principe du soutien psychologique et social et arrêter de victimiser les gens à vie.
Arrêter de victimiser, est-ce qu'il faut carrément arrêter aussi ces cellules d'aide psychologique ou pas?
En l'état actuel, très clairement oui, puisque la plupart...
Vous seriez pour leur suppression pure et simple?
En l'état actuel...
Ça sert à rien selon vous?
C'est pas que ça sert à rien, c'est qu'un certain nombre de cellules aggravent la situation des personnes impliquées. On a de multiples témoignages de personnes qui ont été prises en charge par des psys ou par des non-psys, puisque
oui, c'est ça,
du fait
le problème
de la
aussi.
Pression, du fait de la demande très très forte politique et médiatique...
Beaucoup de personnes n'étaient pas formées.
Hein. Beaucoup de professionnels, les cellules ont peu de moyens, c'est un mi-temps psychiatre, un mi-temps psychologue, à mi-temps secrétaire, pour couvrir des centaines et des centaines de personnes prises en charge, donc des équipes de volontaires qui interviennent qui ne sont pas toujours formées, certaines fois qui ne sont pas psy. Avec la seule bonne volonté, ça n'est pas suffisant. Donc par des mots, par des attitudes, on peut, comme le disait Boris, survictimiser les gens comme on le faisait avant. Donc c'est ce qui est fait actuellement. Et le pire, c'est que ça crée un leurre parce qu'on dit aux personnes, on va vous prendre en charge. Et au final, on ne les prend pas forcément bien en charge. Et puis surtout après, on les lâche, on les abandonne. Le traumatisme, la souffrance fait partie de la vie. Je suis désolée de plomber l'ambiance, mais c'est comme la mort, ça fait partie de la vie. Il faut réapprendre à supporter ça, et la dérive est venue de ça. Comme si la souffrance devenait quelque chose qui était à éviter et auquel il ne fallait pas s'affronter. Ça fait partie de la vie, on a les ressources individuelles pour le supporter. Il faut revaloriser ça, mettre en place des soins vraiment spécifiques d'urgence pour des gens réellement blessés psychiquement et arrêter de mettre en place des dispositifs qui au final ne sont que des leurres et des gadgets politiques, c'est
avec
vrai.
Avec la psychologisation de la tristesse et de la détresse,
oui.
Boris Cyrulnik.
Alors, le débriefing précoce, c'est-à-dire tout de suite après le trauma, quelques personnes veulent parler tout de suite, c'est pas la majorité. Quand on est malheureux, on serre les dents. On parle, mais il faut parler ensuite,
après.
On ne peut pas passer sa vie avec les dents serrées. Donc il faudra bien parler un jour, mais tout de suite après le trauma, on serre les dents pour moins souffrir. Si on force les gens à parler à ce moment-là, on ajoute une source verbale, une mémoire verbale à la mémoire des images du trauma. Donc on renforce le trauma. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les gens. Il faut les soutenir pré-verbalement, par une présence, par un programme. Les Italiens ont fait des évaluations du devenir des victimes après une éruption, l'éruption du vulcano. Et ils ont fait des populations. Les gens qui n'ont pas été soutenus ont fourni effectivement une part importante de syndrome psychotraumatique. Les gens qui ont été trop soutenus, qui ont été rendus passifs, ont fourni un nombre presque aussi important de syndrome psychotraumatique. Et les gens qui ont fourni le moins de séquelles sont ceux qu'on a soutenus préverbalement, à qui on a dit « prenez une pelle, remplissez les papiers, aidez les blessés, faites ce que vous savez faire ». Et c'est dans cette population qu'il y a eu le moins de souffrance.
Mais comment on en arrive là, 20 ans après donc, la création de ces cellules? Xavier Emmanuelli, qui signe aussi un chapitre du livre, reconnaît lui-même que l'outil est mal utilisé. C'est quand même consternant, non?
C'est consternant, enfin c'est cette dérive qui est consternante, mais je pense qu'elle est liée à, enfin nous pensons, puisqu'on est plusieurs dans l'ouvrage, qu'elle est liée à plusieurs facteurs, à la fois cette incapacité de notre société à supporter la souffrance, la victimisation, mais ça c'est très franco-français, hein, et puis l'assistanat des gens qui subissent des épreuves, et le fait de, voilà, ça a été un gadget au sens où pour les politiques, l'idée c'était qu'il fallait du psy, si on met en place la cellule psy, voilà, les choses sont mises en place et je gère la situation. Et moi j'ai coordonné quand même beaucoup de dispositifs où on a vu les politiques arriver, les caméras qui suivent, bien évidemment, et l'un et l'autre se renchérissent. Et puis, une fois que le politique est parti, qu'il a fait sa tournée, plus de moyens, c'est terminé. Et nous, quand on demande des moyens pour prendre en charge, on lui dit non, mais c'est terminé, on n'en a plus besoin. Donc, le leurre, il est là. C'est-à-dire que le dispositif est devenu juste un outil de propagande et pas du tout un outil de soin. C'était un outil de soin au départ.
Boris Cyrulnik, ce message de Jacques, dans nos sociétés occidentales, dit-il, la prise en charge des victimes est donc reconnue. Mais comment imaginer les habitants de Kaboul, d'Alep, de Damas qui sont soumis quotidiennement aux attentats et aux bombes, est-ce qu'ils reçoivent un soutien psychologique? Alors les terrains de guerre, vous les connaissez bien?
Oui, j'ai été à Alep, Damas, je connais ces pays, j'aime beaucoup la Syrie et les Syriens, enfin l'ancienne Syrie, parce que je pense qu'ils vont avoir plusieurs générations, il faudra plusieurs générations pour refaire un pays quand la paix sera gagnée. Et je pense que ce qui peut soutenir ces gens, c'est avant le trauma, s'ils avaient acquis des mécanismes de protection, c'est-à-dire ce qui est le cas de beaucoup de cultures arabes où les familles sont très solidaires et où les enfants acquièrent un mécanisme de protection. Ils résistent mieux au choc.
Mais là, c'est la dislocation des familles.
Mais là, c'est une dislocation des familles, c'est une dislocation du pays et de la culture dans des conditions d'abandon. Donc ça, c'est parfait pour déclencher un syndrome psychotraumatique et une difficulté à s'en remettre. Et les deux mots-clés après le fracas, c'est soutien et sens. Et le soutien, ils peuvent l'avoir entre eux s'ils font des groupes de soutien, ce qu'ils font.
Mais ça existe.
Mais ceux qui sont mis dans des camps ne peuvent pas le faire, parce que le camp, c'est la plus mauvaise des solutions. C'est la solution la plus tragique, parce que quand on met des victimes alors, d'une guerre, quand on les met dans des camps, ce qu'on fait actuellement, on réveille les processus archaïques de socialisation, c'est-à-dire la loi du plus fort. Et on voit des jeunes imposer leurs lois et se mettre à trafiquer la drogue, les aliments, les armes. Et ça, c'est vraiment anti. C'est vraiment, ça va les empêcher de s'en sortir. Et le sens, ils ne sont pas encore dans le sens. Il faudra chercher à comprendre ce qui s'est passé. Mais ça, c'est pour plus tard.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion et les messages. Pour vous, franceinter.fr. Je suis victime, l'incroyable exploitation du trauma, aux éditions Philippe Buval. Mes invités qui ont dirigé ce livre, Hélène Romano et Boris Cyrulnik, et vos messages, vos témoignages sur franceinter.fr. Sur Twitter, Christophe nous dit ceci, cette victimisation, est-ce qu'elle ne fragilise pas les gens qui ne sont plus capables justement de faire face par eux-mêmes, Boris Cyrulnik?
Non, je pense que ce qui fragilise les gens, c'est l'abandon. L'abandon avant le trauma, on acquiert un facteur de vulnérabilité. Et l'abandon après le trauma, on est seul, non entouré, sans possibilité d'être sécurisé ou sans possibilité d'en parler. Ça, ça fragilise. En revanche, la sécurité avant le trauma renforce. Un enfant, ça ne veut pas dire qu'il ne souffrira pas. Il va souffrir, mais comme le disait Hélène, citez-moi une seule biographie sans souffrance. Vous ne pourrez pas. Donc il va souffrir, mais il va affronter. Alors que s'il a été vulnérabilisé, il souffrira et n'affrontera pas. Et après le trauma, s'il y a le soutien et le sens, il s'en remettra.
Ouais. Et le problème des personnes mal accompagnées, c'est ce que vous disiez également tout à l'heure, Hélène Romano, ce qui est quasiment pire que tout, au fond.
Bah, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que si on promet aux personnes de les prendre en charge, si on leur laisse penser qu'elles vont être bien prises en charge, alors qu'elles sont dans un moment d'ultra-vulnérabilité psychique compte tenu de ce à quoi elles ont été confrontées, c'est pire que tout. Et on voit bien dans l'accompagnement des personnes dans le cadre des consultations de psychotrauma à quel point la bonne volonté des intervenants est loin d'être suffisante pour prendre en charge les personnes. Parce qu'il ne s'agit pas de parler, de forcer à la parole, mais ce que disait Boris, c'est très important, c'est tout un comportement, une attitude, certaines fois un regard, qui vont être suffisants pour réhumaniser les personnes.
Et vous avez été, je le signale, Hélène Romano, pendant 11 ans, vous avez coordonné la cellule d'urgence du Val-de-Marne et vous avez choisi dans cet ouvrage 4 tragédies emblématiques, en tout cas de ce traitement accordé au drame et à leurs victimes. Alors il y a le séisme d'Haïti, l'attentat de la cathédrale de Bagdad, la bombe qui a explosé dans un café de Marrakech et l'incendie de l'Île-et-Rose. Un autre exemple de ces cellules psychologiques, ce sont celles qui ont été mises en place pour les rescapés du Népal de retour en France, avril 2015. Et ce matin-là, à Roissy, 206 rescapés du séisme arrivaient.
Je me suis dit que j'allais mourir, mais je souhaitais que papa et maman ne meurent pas.
Les membres de la Croix-Rouge ont mis en place une cellule psychologique, un soutien essentiel après un tel traumatisme.
On leur laisse tous la même consigne, c'est-à-dire ne restez pas seuls avec ça. Et si vous rentrez chez vous, n'hésitez pas à en parler et à en reparler avec des spécialistes si nécessaire.
Aujourd'hui, si ces rescapés se disent tous chanceux d'être saufs, ils sont nombreux à regretter de devoir laisser le Népal en pleine consternation.
On est presque coupable d'être parti, de les avoir laissés. Moi, je suis triste d'être rentrée parce que j'ai laissé tous ces gens qui vont avoir des pénuries d'eau, de nourriture.
Surtout à ceux qui sont encore là-bas, qui sont encore coincés dans les montagnes. Et j'espère qu'ils rentreront sans les saufs.
Voilà, de retour donc du Népal. Cette culpabilité, vous l'entendez, Boris Cyrulnik, hein ?
Oui, ça fait partie du deuil. Quand on perd quelque chose, que ce soit un deuil réel ou que ce soit le deuil de son pays, on est arraché. On a une partie de nos racines sont arrachées. Donc les gens sont en deuil. Et quand on est en deuil, très souvent, quand on est survivant, on est souvent culpabilisé, soit parce qu'on a laissé commettre un crime, soit parce qu'on a laissé... On a l'impression... qui n'est pas réel, mais qui est une impression d'avoir abandonné nos proches qui, eux, sont morts.
Hélène Romano, c'est la Croix-Rouge, là, en l'occurrence, qui prend en charge les rescapés.
Alors, sur ce dispositif-là, je crois, sauf erreur, qu'il y avait la cellule d'urgence médico-psychologique du 93 avec Thierry Bobet qui coordonne pour les situations les plus inquiétantes au niveau des troubles, parce que certaines personnes pouvaient avoir des troubles importants. Mais la Croix-Rouge assure du soutien. C'est vrai que pour l'ensemble des intervenants Croix-Rouge, vous avez une psychologue. Mais c'est vrai que les gens sont plutôt...
Une seule.
Oui, sur l'ensemble des centaines, des 50, 100 qu'il y a habituellement sur ces dispositifs, vous avez une psychologue. Les autres, ils ont une formation qui est plus ou moins spécifique. Oui. Mais pour faire du soutien psychologique, c'est vrai que dans ces cas-là, il faut impérativement être formé. Une personne qui vous dirait qu'elle se sent coupable, c'est un très très bon exemple. La culpabilité permet de tenir face au sentiment d'impuissance. Si je dis à cette personne, mais non, c'est pas de votre faute, ça sert à rien de vous sentir coupable, je vais la survictimiser parce que je suis en train d'invalider ce qu'elle met en place comme théorie pour tenir face à l'horreur. Donc toute l'importance, vous voyez, c'est toute l'importance des mots, c'est d'accepter d'entendre ça, lui dire aujourd'hui vous pensez ça, peut-être que demain vous pourrez penser autrement. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose parce que là je crée l'altérité. Oui. Moi, je peux penser autrement, mais ce que vous dites c'est très important. Qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Et là-dessus, quand on intervient en immédiat, ça c'est un très bon exemple, on va aider la personne à retrouver ses ressources, justement ressources résilience, la capacité de se protéger elle-même, certaines fois en mettant en œuvre ce sentiment d'impuissance. Et un certain nombre ont mis en place des associations, des relais pour venir en aide aux Népalais.
Marjorie nous dit « Je suis énervée lorsque j'entends dans les médias une histoire horrible suivie de « Mais une cellule psy est en place, sous-entendu, alors tout va bien ».
Elle a
alors,
bien raison.
Ça vraiment, j'ai la même réaction. C'est vraiment la phrase même. Stéréotypée qui clôt un débat et qui empêche le soutien. On n'a plus à s'en occuper puisqu'il y a une cellule psychologique sur place. Ouais. C'est absurde.
Ouais. Et même s'il y avait une cellule psychologique sur place, et même si elle était très très bonne de compétences, elle n'est rien dans le temps. C'est un moment donné. Dans le temps, la temporalité de l'accompagnement, ça n'est qu'un moment donné.
Et c'est tout le problème du suivi, hein, justement. Ouais. Après, l'après, évidemment, traumatisme. Hélène Romano, on assiste en tout cas aujourd'hui à chaque catastrophe à un envoi, en tout cas à la création, sur place d'une cellule de crise, et parfois dans des situations qui ne sont absolument pas justifiées. Vous citez des exemples qui sont consternants quand même.
Oui, quand il y a eu les problèmes de grippe, on nous a demandé d'aller dans les aéroports pour accueillir les personnes dans un cas de cellule d'urgence médico-psy. On a bagarré au ministère en disant mais c'est hors de question. Oui. Les gens, ils ne sont pas traumatisés. Non, mais si, on ne sait jamais. Quand il y a eu les problèmes de neige, d'enneigement cet hiver, il y a eu des cellules psy qui ont été déclenchées.
Pour les personnes bloquées
sur l'autoroute. Enfin, on voit bien les dérives certaines fois. Ouais. Bon,
mais ce qui est fou, c'est qu'on entend dans le témoignage des personnes bloquées parfois, leur demande aussi. Elles se sentent abandonnées lorsqu'elles ne voient pas arriver les cellules psychologiques.
Oui, absolument. Il n'est pas question de les abandonner. Ouais. Il est question d'être là avec ces personnes et de leur demander de partager un café, de prendre une pelle, voilà, d'aller faire quelque chose, d'agir. L'action est un très bon tranquillisant. Oui. Et comme le dit Hélène, la culpabilité est presque une preuve de moralité. Si j'étais pervers, je me foutrais éperdument de la mort des autres. Comme j'y suis pas indifférent, je suis un peu coupable, je me sens coupable, je suis pas coupable, je me sens coupable de n'avoir pas fait plus pour ces gens-là. Donc c'est presque une preuve de moralité.
Oui. Jean-René nous dit ceci, en 91, mon fils a été tué par balle pendant son service militaire. La seule cellule psychologique que j'ai rencontrée, c'est un dîner à la table du colonel. Je ne supporte plus ces cellules et leurs corollaires. L'expression « faire son deuil ».
Oui, c'est un témoignage fort, mais on le voit malheureusement sur les situations qui sont médiatiques. Les familles des endeuillés, pour en avoir suivi quand même un très grand nombre, dans l'immédiat, il y a vraiment beaucoup d'attention politique. Ils ont les téléphones portables du ministre, du président, du premier ministre. Et puis, passé le temps, la semaine, le mois qui suit, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et ils se sentent vraiment extrêmement abandonnés. Et beaucoup ont l'impression d'avoir été instrumentalisés, pour le coup, parce que ça a permis de montrer au public français, à la société française, cette figure surmoïque d'un président, mais toutes couleurs politiques confondues, de politique, on est là, on est présent, on s'occupe de vous. Sauf qu'après, ces familles-là sont totalement abandonnées. Donc oui, ils sont reçus à l'Élysée, ils sont reçus dans les cabinets ministériels, dans des bourgs pas, et puis derrière, il n'y a plus rien.
On pense à ces familles qui apprennent la disparition de proches à l'occasion de crash aériens, par exemple. Donc tout de suite, là, on sent bien la nécessité quand même de les entourer dans un moment extrêmement traumatisant. Oui. Et ensuite, il n'y a plus de suivi.
Il n'y a plus rien. Plus rien.
Du jour au lendemain, c'est terminé. La famille endeuillée, les portes de l'aéroport et c'est terminé.
Dans le cas du Concordia, moi je suis toujours en lien avec eux, il n'y a plus rien, plus aucune aide. Et là, ils ont besoin d'aide pour récupérer des affaires personnelles. Ils n'ont plus d'interlocuteur.
La cellule qui était une idée nécessaire et généreuse s'est transformée en alibi. On a fait ce qu'il fallait puisqu'on a invité quelqu'un à déjeuner, donc ça va. Il va s'en remettre, il va faire son deuil. Et il y a une dérive des mots qui est absurde, mais ça c'est vrai pour tous les mots, pas seulement pour les victimes. C'est vrai pour tous les mots. Il y a une dérive, c'est-à-dire que les mots changent de sens. Je pense par exemple le travail du deuil que récitaient les journalistes systématiquement après une tragédie. Et je pense à un monsieur dont quelqu'un avait été tué dans sa famille. Et il disait, l'assassin n'a eu que 7 ans de prison, comment voulez-vous que je fasse mon deuil? C'est-à-dire que pour lui, s'il avait eu 12 ans de prison, le barème lui aurait permis de faire son deuil. C'est absurde, c'est pas ça du tout. Donc, il y a une dérive des mots, donc il faut tout le temps redéfinir ce qu'on fait, ce qu'on a tenté dans ce livre.
Hélène Romano, ce qui est incroyable, c'est que ces cellules n'ont eu aucun audit, il n'y a pas eu d'évaluation sur leur pertinence.
Aucun audit, il y a une recherche, un projet de recherche clinique qui a été fait par un des médecins de Lyon pour essayer d'évaluer les dispositifs. Au final, il n'y a pas eu vraiment de publication. Mm-hmm. Non, il n'y a pas d'audit, c'est extrêmement compliqué.
En Israël, il y a eu... Samtiano a fait des suivis, des études.
Et alors, qu'est-ce que ça donne
Il est dans ce livre.
Mais quel résultat?
Et il confirme ce que Hélène vient de dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'abandonner, il faut soutenir, il faut être là, mais ce n'est pas le fait de forcer les gens à parler qui va les soulager.
Je suis victime chez Philippe Duval, Hélène Romano et Boris Cyrulnik sont là pour nous parler de cette exploitation du trauma et de cette prescription médiatique des victimes. C'est le terme que vous employez, Hélène Romano.
Oui, on voit bien que tant qu'il n'y a pas les caméras, les personnes ne sont pas reconnues en tant que telles. Et à partir du moment où vous avez les caméras avec les chaînes d'info continue, on a bien vu aussi les dérives, ça y est, l'événement a enfin de la valeur et la personne peut se dire victime.
Ouais, c'est la communication émotionnelle, c'est ça aussi qui est au cœur de ce processus.
Je ne suis pas sûre qu'on communique beaucoup dans ces cas-là, mais en tout cas, c'est la spectacularisation émotionnelle, tout à fait. Oui.
Boris Cyrulnik, ces personnes traumatisées, qu'est-ce qui les caractérise au fond exactement?
Alors, il y a des caractéristiques cliniques, c'est-à-dire que les gens sont prisonniers du trauma, ils voient sans cesse des images.
Traumatisme et trauma, quelle est la distinction au fond?
Le trauma, c'est le choc dans le réel. Le traumatisme, c'est la représentation du choc réel. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois. Quand on reçoit un coup, un trauma, on peut avoir la jambe cassée, on a une brûlure, on souffre du réel. Mmh. Et ensuite, on peut souffrir une deuxième fois de la représentation du réel. Pourquoi est-ce qu'il m'a brûlé? Pourquoi est-ce qu'il a voulu ma mort intentionnellement? Et on souffre une deuxième fois.
Oui.
Ça, c'est la différence entre ce qu'on fait habituellement entre trauma et traumatisme. Oui.
Alors, l'imagerie cérébrale nous montre des choses assez étonnantes, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire que notre cerveau porte la trace aussi du trauma, et biologiquement.
Biologiquement, neurologiquement, la photographie maintenant. Oui. C'est-à-dire qu'on voit qu'un cerveau, quelqu'un a été traumatisé par une émotion qu'il ne peut pas traiter.
Oui.
C'est impensable. Comme dit Hélène, je vais mourir, je ne m'y attendais pas, j'étais en vacances, j'étais en train de travailler, et tout d'un coup, je ne m'y attendais pas, je ne suis pas vieux, je ne suis pas malade, je vais mourir. Et émotionnellement, le cerveau ne peut pas traiter cette information qui est trop forte. C'est-à-dire que l'amygdale rhinencéphalique, qui est une amygdale, une amande, qui se trouve à la face profonde du cerveau, eh bien elle s'éteint. Elle ne traite plus l'information. Il y a une sorte de sidération neurologique. C'est-à-dire que le sujet, émotionnellement stressé par une situation qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut pas traiter, son cerveau est sidéré. Son cerveau, il est, alors à l'imagerie, on voit qu'il est gris.
C'est quoi ? C'est une sorte de... Ah, c'est une... D'accord.
L'image montre que quand on parle, quand vous parlez, vous avez votre lobe temporal gauche qui consomme beaucoup d'énergie. Donc l'ordinateur traduit...
En principe.
Donc l'ordinateur traduit ça et donne une couleur rouge. Il n'est pas rouge, mais c'est l'ordinateur qui traduit la quantité d'énergie et donne une couleur rouge. Si votre cerveau est éteint, ça donne du noir ou du gris ou du bleu. Ça ne fonctionne pas beaucoup. Quand quelqu'un est sidéré, il n'a plus de vie psychique intime, c'est-à-dire que le cerveau est gris, il n'y a plus d'émotion. Il est victime au sens médical du terme. Oui. Il ne peut rien traiter. Alors, mais s'il est sécurisé, par une présence familière, sécurisante, préverbalement, je suis là, pour l'instant, on va vous faire un pansement. Plus tard, si vous le désirez, il faudra bien affronter le problème. Mais pour l'instant, on va mettre un plâtre. La simple sécurité, le sujet, d'ailleurs il demande, ne m'abandonnez pas, je suis tout seul, est-ce qu'il y a quelqu'un ? J'ai un ami qui rentre des guerres du Mali ou d'Afghanistan, Patrick Clairvoy, et qui dit que quand les soldats ont été blessés ou sont traumatisés par l'intensité ou la terreur de la guerre, une de leurs premières phrases, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Si je suis seul, je vais rester hébété. Ouais. Si quelqu'un est près de moi, mon cerveau progressivement va se remettre à fonctionner. Et à ce moment-là, on pourra faire un travail psychologique en attendant l'intervention sociale.
Et cette couleur grisâtre, alors évidemment, c'est une couleur donnée par l'imagerie, mais est-ce qu'elle reste très longtemps, pendant que le traumatisme, justement...
Si on abandonne les gens, le cerveau reste sidéré très longtemps et ça explique le syndrome psychotraumatique, c'est-à-dire que les gens sont prisonniers d'une horreur. Ils voient l'image tout le temps, ça revient sous forme de cauchemar, et tout ce qu'ils perçoivent dans la journée évoque l'image de l'horreur. Ils sont prisonniers du passé. Mais c'est résiliable. Si on les sécurise avec un processus, c'est résiliable et le cerveau se remet à fonctionner. Mais il y aura quand même une trace qui va rester. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été traumatisé, même préverbalement, on voit la tractographie, c'est-à-dire on voit des frayages qui se font dans le tronc cérébral quand il arrive au cerveau. Des circuits neuronaux sont frayés et les gens, même s'ils s'en remettent, même s'ils ont un bon processus de résilience, restent quand même toute leur vie sensibles à ce genre d'événement.
Mais il y a une plasticité quand même qui est là et qui permet quand même de faire
en sorte
que la
situation bouge. Il y a une énorme plasticité si on modifie le milieu.
Oui.
Là, il y a une énorme plasticité, mais si on n'intervient pas, là, le cerveau se rigidifie et là, il n'y a pas de plasticité.
On va écouter Frédéric, c'est un marin de 43 ans qui témoignait dans l'émission Les yeux d'Olivier. Dans Les yeux d'Olivier, il a échappé il y a 8 ans à une mort lente en mer.
Moi, j'ai vraiment pensé que j'allais mourir le dernier jour.
Le dernier jour.
Quand j'ai lâché prise.
Ouais.
Ça fait suite également à une nuit qui restera toujours gravée dans ma mémoire. Une nuit de cauchemar où on est rattrapé par l'eau qui monte, qui s'infiltre partout en nous. Et on sent qu'en fait, on est aspiré par le fond qui cède en plus. Tout est noir, tout est froid, tout est glacé, quoi. Et au bout du 8e jour, on est très sérieusement entamé. Parce que là, on se dit, ils nous ont peut-être oubliés, quoi.
Voilà, Boris Cyrulnik. Un commentaire sur ce témoignage, sur ce sentiment d'être oublié, justement, et de voir la mort arriver. C'est ça aussi qui caractérise le traumatisme, au fond.
C'est même ce qui le définit. Ouais, c'est-à-dire que j'étais vivant, et tout d'un coup, je suis mort. Je prends conscience que je suis mort. Je m'y attendais absolument pas. Et je suis sidéré. Donc ce monsieur confirme cliniquement ce qu'on vient d'expliquer avec l'imagerie cérébrale.
Ce message de Lisa, je travaille dans l'immeuble où Charlie Hebdo était installé au moment de l'attentat du 7 janvier. Aucune prise en charge dans les heures qui ont suivi dans l'immeuble. Après des heures d'attente dans nos locaux, l'évacuation des blessés, le passage des politiques, nous avons été autorisés à sortir. Il nous faudra attendre 48 heures avant d'être pris en charge en groupe. Pas de suivi après ça, alors qu'une fois encore, on nous l'avait promis.
Oui, c'est exactement ce qu'on dénonce, et ce qui s'est passé au moment des attentats de Charlie a été vraiment dénoncé par de nombreuses personnes, c'est-à-dire cette espèce de leurre de prise en charge, alors qu'au final, il n'y avait pas de prise en charge suffisamment adaptée.
Oui.
Et beaucoup de personnes présentes dans cet immeuble ont été survictimisées. Pour le coup, moi, j'en ai rencontré un certain nombre, parce qu'ils ont été contraints de rester, mais en étant abandonnés, c'est-à-dire on leur a interdit de sortir, ils voyaient les allées et venues, ils ont vu les corps sortir, enfin, c'était absolument épouvantable, et totalement seuls. Et après, on leur a dit, on va vous prendre en charge. Ils ont été pris en charge en groupe, alors qu'ils ne le souhaitaient pas forcément. Et après, individuellement, il n'y avait pas, au même titre que dans la plupart des lieux médiatiques, il a été proposé, je crois même pour chez vous, il a été proposé des cellules psy, et un certain nombre de professionnels disant non, on n'en a pas forcément besoin, se sentant coupable de ne pas y aller, comme s'il fallait y aller. Enfin,
ouais.
On voit bien que la prescription, l'imposition du psy ne sert à rien, peut survictimiser. Et en même temps, les gens qu'on aurait besoin, quand on ne met pas en place des choses adaptées, on les leurre et on va les fragiliser encore davantage.
Ouais. Et cette consommation d'anxiolytiques qui a très nettement augmenté partout en France après les attentats de Charlie. Qu'est-ce que ça dit au fond ?
Les laboratoires avaient des communications assez différentes, mais en tout cas sur Vincennes-Paris, oui. Bah, c'est justement cette difficulté à penser un événement traumatique comme un événement de vie qu'on va pouvoir dépasser et du coup à médicaliser avec différents types de molécules. Mais vous êtes endeuillé, on parlait du deuil tout à l'heure, vous allez voir votre médecin, vous sortez de là, et ça c'est très franco-français, vous sortez de votre consultation avec des anxiolytiques, des antidépresseurs, comme s'il était pathologique de pleurer. Non, c'est pas pathologique d'être triste face à un deuil, c'était pas pathologique d'être anxieux, inquiet suite aux attentats. Au contraire, c'était très adapté. Au lieu de valoriser ça, on a renvoyé aux gens qu'ils avaient des troubles psychiatriques, parce que les cellules psy, c'est des soins psychiatriques.
Oui, Boris Cyrulnik.
De plus, la souffrance est inévitable. Il n'y a pas de vie sans souffrance. Et on voit maintenant, quand on le faisait, on ne le fait plus maintenant, on donnait des antidépresseurs aux gens en deuil. Effectivement, ils souffraient moins. Et quelques mois après, qu'est-ce qu'il disait ? Ma mère est morte, je n'ai pas souffert, je suis un monstre. Donc la souffrance fait partie de la condition humaine, à condition qu'on puisse la socialiser et la partager ensuite.
Hélène Romano, comment prendre en charge un trauma collectif ? Je pense évidemment à ce jeune homme qui a chuté de cette statue de la place de la liberté, de la République, pardon, dimanche, encouragé par la foule.
Par une partie de la foule, dans l'immédiat, il faut vraiment penser la temporalité, c'est-à-dire il y a des choses qu'on fera en immédiat et puis des choses qu'on fera après, en prenant en charge déjà les personnes très directement concernées, je pense à la famille, ce qui je crois n'a pas été le cas, et prendre en charge après les différentes personnes qui étaient ses proches, ses amis, ceux qui ont encouragé. Toute la difficulté, elle est là, c'est que si on se précipite, qu'on prend en charge tout le monde, ça ne va pas du tout être opérant.
Et on ne peut pas prendre en charge tout le monde.
C'est certaines fois ce qui est fait. On a certains psys qui sont donc d'accord pour mettre dans un amphi 300 personnes et faire des messes victimologique. On le voit entre autres sur Paris, donc c'est pas du tout adapté. Prendre en charge plus individuellement, puis ces personnes-là, assez rapidement, voir qui peut les prendre soin d'eux, qui peut faire attention à eux dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, et être disponible si les troubles persistaient dans les semaines qui suivent. Mais en immédiat de l'immédiat, c'est vraiment cette attention préverbale qui est à mettre en place et qui sera adaptée à chaque personne.
Boris Cyrulnik, pour terminer, sur ces traumas collectifs.
Alors, les traumas collectifs sont la règle et vont devenir de plus en plus fréquents. C'est-à-dire que là, il y a des mécanismes psychologiques et culturels à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient des lieux de parole et des lieux de soutien. Ça peut être fait par des associations, ça peut parfois des psychologues, mais pas toujours. Il peut y avoir des associations familiales, des associations religieuses. Il peut y avoir, mais il faut qu'il y ait de la culture et de l'affectivité autour de ces gens.
Et qu'on éduque juste très rapide aux images, parce que les images peuvent être hautement traumatiques pour les enfants en particulier qui les regardent. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, les médias ont une responsabilité importante.
Merci Hélène Romano et Boris Cyrulnik. Je suis victime, l'incroyable exploitation du trauma, aux éditions Philippe Duval.